Cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jodard le 28 octobre 1987.
On m'a demandé de revenir un instant sur cette question de l'intuition de l'être chez Maritain. Je ne veux pas m'attarder de trop. Ceux qui ont le temps de lire dans Maritain ces quelques aspects, les 7 leçons de l'être, c'est intéressant. Je ne suis pas entièrement d'accord, mais c'est intéressant, puisque c'est intéressant de toujours un peu comparer ce point de départ de la métaphysique. On voit qu'il est toujours un peu enfoui et qu'il est difficile à bien préciser. Alors, j'ai essayé de vous montrer quand Raïssa découvre subitement comment le petit chat qu'elle aime existe et qu'elle-même, qui n'est pas le petit chat, existe et qu'elle voit que non seulement le petit chat, mais tout ce qui est autour d'elle existe. Et que, en même temps, ce sont des réalités tout à fait différentes. Elle dit à ce moment-là, intuition de l'être. J'ai eu comme une intuition de l'être. Alors, je veux bien qu'on puisse dire intuition, c'est-à-dire quelque chose comme un éclair. Maritain a été pas disciple, mais a bien connu Bergson. Chez Bergson, l'intuition joue un rôle capital. Le mot intuition est relativement moderne, si vous voulez. Dans Saint-Thomas, vous ne voyez pas beaucoup d'intuition. Ça ne veut pas dire que Saint-Thomas n'en a pas. Vous voyez perception, vous voyez expérience. J'ai fait une fois à Fribourg, tout un coup, pendant toute l'année, sur expérience et intuition. Et ça, c'est intéressant à bien préciser. Je crois que l'expérience, au sens fort, c'est-à-dire l'expérience qui implique les sens et nos sensations externes, et donc l'expérience la plus fondamentale, c'est l'expérience qui implique le toucher. Tant qu'on n'a pas cette expérience du toucher, il y a quelque chose qui manque dans le réalisme. Pensez aux martiens des soucoupes volantes. On en parle moins maintenant, mais à un moment donné, on a beaucoup parlé. Et c'était très intéressant à suivre ça au point de vue critique, philosophique. Évidemment, ça aurait été très intéressant d'inviter un martien à faire un cours de philosophie dans sa langue. Mais on n'a jamais touché. C'était ça qui me semblait le plus curieux. On a vu, on a entendu. Touché, non. Le toucher, c'est le sens ultime du réalisme. Et c'est là où c'est le plus difficile d'avoir des hallucinations. C'est très curieux. Les hallucinations, c'est l'imaginaire qui nous fait croire que nous touchons quelque chose, que nous voyons quelque chose, que nous entendons quelque chose. Quand on est un peu fatigué, on peut avoir des hallucinations. C'est pas la même chose que des inspirations. L'intuition porte sur un rapport. Et je crois que c'est le propre de l'intuition. Toute intuition porte sur un rapport. Vous voyez, c'est dans l'aspect esthétique, artistique, c'est dans l'aspect mathématique, c'est dans l'aspect critique que les intuitions dominent. Je peux avoir des intuitions critiques. J'ai pas vu le rapport qu'on avait avec deux choses que je voyais, mais je ne les mettais pas en rapport. Subitement, on les met en rapport. Alors, il y a comme une intuition. En art, constamment, en esthétique, deux couleurs, une lumière et ses couleurs, une lumière diverse, fait que tout de suite, il y a quelque chose qu'on saisit et qu'avant, on n'avait pas saisi. La même chose pour le langage poétique. On met des comparaisons ensemble et on découvre quelque chose qu'on n'avait pas découvert avant. Et dans l'ordre des symboles, c'est très net. Donc, l'intuition est au niveau de la forme et des relations de la forme. C'est pour ça que je dis qu'il y a une intuition de relation entre l'existé et le ceci, qui est le chat ou la vache ou moi-même. On voit qu'il y a une relation semblable, identique. Et c'est l'identité de cette relation dans la diversité, c'est une relation ça, qui me fait saisir quelque chose que je n'avais pas vu avant. Subitement, je dis, tiens, c'est curieux. Nouvelle relation saisie. Vous voyez, ce n'est pas l'être. L'être n'est pas saisi premièrement dans une relation, on le verra du reste. Quand je reste dans une relation, je reste dans une certaine perspective. Merleau-Ponty dit que l'être, c'est un tissu de relation. Il faudra voir comment Merleau-Ponty peut dire que l'être, c'est un tissu de relation. Pour certaines personnes, leur personnalité, c'est un tissu de relation. Vous savez bien, tout de suite, parler avec elles, au bout de 3 minutes, on a toutes les relations avec lesquelles ces personnes. Je connais des personnes, ça va bien. Ce sont des amis. C'est un tissu de relation. On a envie de dire ça au bout d'un quart d'heure, vous êtes un tissu de relation. Alors, où est-ce que vous vous situez? Il doit y avoir quand même une relation type qui domine toutes les autres. Parce qu'on se perd dans un tissu de relation. On ne sait plus très bien où on est. Je crois que l'intuition de l'être, chez Raïssa, il y a quelque chose de juste. Mais c'est beaucoup plus de dire l'intuition de la relation, de l'existé et du ceci. On y reviendra là-dessus. Je crois qu'il y a là quelque chose qui est juste et qui suscite une admiration. Et c'est pour ça que je la mettrai dans la diversité des jugements d'existence et dans l'unité de la diversité de ces jugements d'existence qui éveille en nous une admiration. C'est vrai que c'est très étonnant, cet œcuménisme fondamental de l'exister. Toutes les réalités que vous voyez, elles existent. L'exister en vous, c'est à la fois quelque chose de très fondamental, parce que si vous n'existiez pas, tout disparaîtrait. Votre intelligence, votre capacité d'aimer, vos sensations, tout disparaîtrait. Et votre exister est commun avec tous les autres. C'est à la fois ce qui est principal en vous, et en même temps ce qui est commun avec tous les autres. C'est très curieux. Ordinairement, quand vous saisissez quelque chose qui est original pour vous, vous le saisissez justement comme une chose que seul vous possédez et que les autres ne possèdent pas. Et dans l'exister, il y a cela. Alors voyez, ça, il y a une certaine intuition là. Mais c'est une intuition d'une relation. Ce n'est pas l'intuition de l'être. Et cette intuition me met en état d'éveil, en état d'admiration, et je pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Et alors, c'est là où nous étions arrivés à bien comprendre ce passage que je crois très important dans la vie de l'intelligence. On n'a pas assez insisté là-dessus. En scolastique, les modernes insistent beaucoup là-dessus. C'est pas étonnant. On revient beaucoup à l'interrogation. Heidegger dit que ce qu'il y a de plus grand en métaphysique, c'est l'interrogation. Parce qu'il ne peut pas donner de réponse. Si on peut donner une réponse à une interrogation, ce n'est pas ce plus grand, c'est l'interrogation. Oh, comme vous êtes intelligent de poser une question. Oui, c'est très très vrai. On est très intelligent de poser les questions. Tu vois, de poser des questions intelligentes. Parce qu'il y a des questions bêtes. Mais il y a des questions intelligentes. Poser une question intelligente, c'est d'être très intelligent. Et c'est manifester l'intelligence. Mais c'est encore plus intelligent d'y répondre. Et d'y répondre intelligemment. C'est encore plus intelligent, ça va plus loin. C'est très curieux, vous voyez, c'est très curieux que pour Heidegger, l'interrogation, c'est le sommet de la pensée. Interroger, qu'est-ce que c'est que l'être ? Parce que quand il dit qu'est-ce que c'est que l'être, pour lui, c'est penser l'être. Penser l'être, on le pense dans l'interrogation. Parce qu'on ne peut pas donner de solution. Il y a quelque chose de juste, hein. L'être est ineffable. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Alors, au contraire, nous essayons de donner une réponse. Et vous allez voir pourquoi Heidegger ne peut pas donner de réponse et pourquoi nous pouvons en donner une. Et ça, c'est intéressant de voir le changement là, gare de triage. Pour Heidegger, entre eux, il y a, parce que Heidegger ne parle pas en réalité du jugement d'existence. Alors là, c'est une question extrêmement importante et qu'il faut au moins penser quelques minutes à cela. Le jugement d'existence est ceci est. Pour Heidegger, c'est le es gibt, c'est-à-dire il y a. C'est le datur latin. Ceci est donné. Ceci est donné, c'est le fait d'exister. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre le fait d'exister et le jugement d'existence ? Quelle différence entre ceci est et il y a ? C'est important à saisir ça. Parce que si on regarde ce jugement d'existence, il est exprimé, je crois, plusieurs fois dans saint Thomas, mais saint Thomas ne le met pas du tout en lumière. C'est dans le commentaire du Périherménéas où saint Thomas, commentant le livre de l'interprétation, puisque le Périherménéas, c'est le livre de l'interprétation d'Aristote, saint Thomas parle du jugement d'existence, mais très rapidement. De fait, Occam, 14e siècle, il est né 30 ans après saint Thomas, la mort de saint Thomas. Occam à Londres essaie de voir ce que c'est que le jugement d'existence. Et pour lui, le jugement d'existence, ce n'est pas du tout ceci est, mais il y a. Et c'est très curieux de voir que cet « il y a » qui remplace le jugement d'existence, chez Occam, on le retrouve chez Heidegger, le « es gibt », ceci est donné. Alors, c'est important de voir quelle différence y a-t-il entre ce jugement d'existence « ceci est » et « il y a ». Ça n'a l'air de rien au point de départ, on ne sent aucune espèce. Eh bien, c'est toute la différence qui existe entre une philosophie réaliste et un positivisme qui s'introduit en philosophie. Quand vous dites il y a, vous constatez le fait. Vous constatez le fait. Mais vous ne le connaissez pas. Tandis que quand vous dites ceci est, c'est votre intelligence qui, dans la réalité existence, touche intellectuellement. L'exister, l'être. Alors, regardons chez Occam, parce que chez Occam, c'est dit explicitement, c'est ça qui est l'avantage. Occam est complexe, mais il dit les choses. Occam se pose la question, qu'est-ce qu'il y a de premier dans ma vie intellectuelle ? Mais question critique. La question aussi que nous nous posons, nous. Qu'est-ce qui est le premier dans ma vie intellectuelle ? Moi, je dis ce qui est premier dans ma vie intellectuelle, c'est le jugement d'existence. Pour Occam, ce qui est premier dans sa vie intellectuelle, il le dit textuellement, c'est intelligo. Vous voyez, hein, le cogito de Descartes. Ce qui est premier dans toute ma vie intellectuelle, c'est j'intellige. Et Descartes dira cogito. Vous voyez que Descartes n'a rien inventé. Il répète une intuition, et là il s'agit bien d'une intuition, que Occam avait. Que Suarez a essayé de corriger, mais n'a pas corrigé entièrement. Et on retrouve alors le cogito. Occam dit « intelligo et amo ». Socrate. C'est très joli ça. Occam est franciscain. Donc il y a évidemment l'amour qui est présent. « Intelligo et amo Socrate ». J'intellige et j'aime Socrate. Voilà ce qui est premier dans toute ma vie intellectuelle. Autrement dit, le premier dans ma vie intellectuelle, il s'agit de réfléchir, non pas sur mon expérience, mais sur le contenu de ma pensée. Et Descartes dira, réfléchir sur le premier moment de certitude. Ça revient au même. Puisque la certitude, c'est dans le contenu de ma pensée. Pour lui, pour Descartes, l'expérience, c'est pas du tout certain. Pourquoi ? Parce qu'on peut se tromper. Je peux me tromper aussi quand je dis intelligo. Tout dépend de ce que je pense. Et Occam ne dit pas à quoi il pense. Intelligo. Et amo Socratem. Là, amo Socratem, il le dit. Il aime Socrate. Bon franciscain. Intelligo est un mot Socrate. Et bien alors, il se pose la question, mais comment rejoindre le réel? Je pars de intelligo. Si je pars d'une idée, comment rejoindre le réel? Ah, je rejoins le réel grâce à mes sensations. Mes sensations me donnent un contact direct avec le réel. Et donc, intelligo plus les sensations me donnent le jugement d'existence. Mais, faisons attention, nos sensations, qu'est-ce qu'elles connaissent? Les qualités sensibles? Pas plus. Donc, le jugement d'existence va découvrir les qualités sensibles d'une réalité, mais l'exister de cette réalité, je ne le dis pas. Vous voyez qu'on est tout proche de ce que Kant dira quand il dira que le noumen est inintelligible. On n'atteint pas. On n'atteint que les formes a priori. C'est extrêmement curieux de voir que Occam annonce Kant. Il y a quand même quelques années entre les deux, hein, vous voyez bien. Occam, 14e siècle, en pleine, non, je ne dis pas en pleine chrétienté, parce que la chrétienté commence déjà au 14e siècle à avoir des divisions internes. Déjà, il n'y a plus d'unité. Le 14e siècle est un siècle extrêmement curieux. Et alors, on voit ce premier moment d'une intelligence qui commence en se repliant sur elle-même. Et le premier moment de l'intelligence, ce n'est pas d'atteindre l'autre, ce n'est pas de l'expérience qui me permet de toucher l'autre, non, c'est de me replier sur moi-même en disant « intelligo ». D'où le problème ensuite, mais comment j'atteins le réel? Comment j'atteins les réalités qui ne sont pas moi? Ah, par les sensations qui viennent s'ajouter. Donc le jugement d'existence n'a plus d'unité et de simplicité, c'est quelque chose de complexe. C'est l'intelligence plus les sensations. Et c'est la complexité des deux qui me permet de dire « il y a ». Et en effet, « il y a », c'est quelque chose de complexe. Il y a quelque chose d'extérieur à moi. Il y a un mur. Il y a une barrière. Et tout est mur et barrière. Parce que je ne le connais pas. Je ne connais que ce que mes sensations atteignent de lui. Et je ne l'atteins pas en profondeur. Je crois ceci très important, vous voyez, parce que Occam va jouer un rôle très important dans la scolastique. Ensuite, c'est évident que c'est lui qui a fait dévier profondément la pensée de saint Thomas. Je vous l'ai dit, Occam revient à Aristote, mais il revient à la logique d'Aristote, et il identifie métaphysique et logique. Et on comprend très bien pourquoi, puisque le jugement d'existence se ramène à « il y a ». Je retrouve quelque chose, donc le datur, ceci est donné, le fait d'exister. Et je dis bien que c'est le positivisme qui s'introduit au point de départ de ma pensée philosophique. Le positivisme, vous voyez bien, on ne connaît du réel qu'en le mesurant. On le mesure. Je mesure le jugement d'existence par intelligo. Et j'ajoute la sensation. Et la sensation va me permettre de toucher les qualités de cette réalité, de cette res, de cette réalité extérieure à moi, mais que je ne connais pas vraiment. La seule chose que je connais, c'est moi. Intelligo, cogito, et en réalité c'est soi. Bon, c'est intéressant ça au point de vue historique, parce que c'est quand même capital. Petite déviation au point de départ fait quelque chose d'énorme. Au point de départ, on dit, mais c'est la même chose, ceci est, et il y a. Oui, dans le langage courant, on dira, oui, il y a quelque chose là-bas, il y a un livre là-bas. Vous ne direz pas, ceci est. Ce livre existe, mais non, pas du tout. Il y a des carottes au marché. Et vous direz ça, il y a des carottes au marché. C'est la constatation. Il y a, vous constatez un fait. Constater un fait, c'est tout à fait autre chose que de le regarder et dire, ceci existe. Dans la constatation, vous restez à l'extérieur. Vous le mesurez. Vous l'avez constaté, mais vous ne le connaissez pas. Vous êtes cogné la tête sur le mur. C'est pas en cognant votre tête sur le mur que vous connaissez le mur. Vous connaissez la bosse de votre front, mais vous ne connaissez pas le mur. Je veux dire, il y a un mur. Ah oui, il y a un mur, je comprends. Je suis cogné dessus. Et quand vous êtes dans le noir, vous connaissez très bien le datur. Faites l'expérience, hein. Dans une salle que vous connaissez peu, vous tâtez. Toutes les résistances, il y a. Ah, il y a une chaise, là. C'est très curieux. C'est ce qui résiste, ce qui est extrinsèque. Mais ce n'est pas ce qui est connu. Alors, je dis que ceci commande toute la philosophie de Heidegger. C'est un peu terrible, mais c'est comme ça. Heidegger, quand il est en face de, mettons, il y a, puisqu'en réalité, c'est pas ceci est, ça n'existe pas chez Heidegger, ça. Il y a, es gibt. Et puis, l'interrogation, qu'est-ce ? L'être. Heidegger dit ceci, il y a, c'est les étangs. Très vrai, c'est les étangs, c'est le mur, c'est la chaise, c'est quelque chose qui existe, mais je ne le connais pas. Donc, les étangs ne me disent rien de l'être. Les étangs, je dois les nier. Donc, négation, je nie les étangs. Les étangs ne sont pas l'être. Et je m'enferme dans l'interrogation « qu'est-ce que c'est que l'être ?» l'intelligence, le intelligo de d'Occam, regarde l'être, puisque l'interrogation c'est l'intelligence. C'est l'intelligence qui se pose la question, qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est l'intelligence qui s'enferme sur elle-même. Tout ce que je constate, tout ce qui est donné, ne peut rien me dire de l'être. Et donc l'être, je ne découvrirai qu'en réfléchissant sur ma pensée. Et réfléchir sur sa pensée, qu'est-ce qu'on découvre ? Si vous le coupez de toutes vos expériences, de tous les datours, de tout Elia, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a plus que vous. Et vous encore, attention, votre corps c'est datour, il est donné. Votre corps, il y a un corps. Et donc, c'est uniquement la pensée. La pensée de la pensée. Oui, ce qu'Aristote dit de Dieu, Heidegger le dit de lui. Si je veux penser l'être dans toute sa pureté, je réfléchis sur ma pensée et uniquement ma pensée. C'est donc à l'intérieur même de la réflexion sur le intelligo que je peux découvrir l'être. Mais vous voyez que je ne peux rien en dire. Aucune détermination, rien. Penser l'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Je ne le découvre qu'au plus intime de la pureté de ma pensée. Puisque tous les étangs ne sont pas l'être. Et ne me disent rien de l'être. Les étangs, pour Heidegger, sont livrés à la science, aux sciences. Les sciences étudient les étangs. Mais la pensée de l'ontologie, la pensée de, je dirais, l'ontologie fondamentale, c'est penser l'être. Et je ne peux rien en dire. Je suis comme médusé par l'être, mais je le découvre au-dedans de moi-même. Rien à l'extérieur. Vous voyez qu'on redécouvre un idéalisme dans une subjectivité absolue. C'est très beau, penser l'être. Mais en réalité, penser l'être, c'est penser votre pensée. Et c'est pas autre chose que penser votre pensée. Rien d'autre. Penser l'être. Alors vous voyez comment la démarche dialectique est présente. Hein ? C'est la négation de tous les étangs. Or, la négation de tous les étangs me fait entrer dans l'angoisse. Je nie tous les étangs. Et c'est de l'angoisse que va apparaître l'être. Et l'être apparaît à partir de intelligo, c'est-à-dire ma pensée. C'est à l'intérieur de ma pensée que l'être apparaît. Et c'est pour ça qu'il dira, il faut le ex nihilo. Heidegger a fait de la théologie. Il sait très bien que l'acte créateur apparaît à partir du rien. Ex nihilo, il y a quelque chose d'analogue pour la pensée l'être. Il faut le néant pour que l'être apparaisse. C'est très curieux. C'est une espèce de vision, si vous voulez, à la fois théologique, mystique et philosophique. Mais il ne saisit plus ce qui est. Ce qui est mis en dehors, complètement en dehors. Vous voyez, c'est là où il y a quand même quelque chose qui reste de son premier maître, qui est Husserl. Husserl dit, l'upoké, il faut mettre entre parenthèses le jugement d'existence. Le mettre entre parenthèses. C'est-à-dire le laisser de côté. Et, de fait, tous les étangs étant nié, le jugement d'existence est laissé de côté. Et on se replie uniquement sur le point de vue de l'intelligence dans ce qu'elle a de tout à fait pur. Ce qu'il y a de plus pur dans l'intelligence, c'est penser l'être. Je suis d'accord ? Mais faites attention, c'est ce que nous allons voir maintenant. Pour nous, penser l'être, ça ne va pas se faire du tout de cette façon-là. Je dirais aussi avec Heidegger que ce qu'il y a de plus pur dans toute ma vie intellectuelle, c'est d'atteindre ce qui est l'être. La métaphysique me donne l'intelligence à l'état pur. Nous disons, nous, ceci. Sont donc à la place de « il y a », ceci est. Et puis, nous voyons que qu'est-ce que c'est que l'être ? On passe du concret à l'abstrait. Et je dis qu'entre le concret et l'abstrait, il n'y a pas la négation du concret pour que l'abstrait apparaisse. Ça, c'est une démarche dialectique. Je dirais que le concret éveille en moi l'intelligence qui, lorsqu'elle veut aller plus loin, va se séparer de ce concret qui m'est immédiatement donné pour interroger. C'est la naissance de l'interrogation, le passage du concret à l'abstrait. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? Ceci est, c'est le concret de cette réalité que j'atteins. Qu'est-ce que c'est que l'être ? C'est la forme abstraite. Le présent, point de vue grammatical, le présent et l'infinitif. La forme de l'infinitif, c'est une forme très curieuse, c'est d'isoler le verbe. C'est de faire que le verbe soit pris pour lui-même. Normalement, le verbe, au point de vue grammatical, dans notre langage, le verbe dans notre langage est toujours relatif au mot, au nom. Vous savez bien ça. Dans « ceci est », vous avez donc le nom et le verbe. Et le verbe est relatif au nom, c'est ce que je vous avais dit. Toujours dans le langage, le verbe est toujours relatif au nom. Le verbe n'est pas premier. Si vous voulez donner au verbe toute sa signification, vous l'isolez du nom et vous le regardez pour lui-même. Et la forme de l'infinitif réalise ça. Vous n'y pensez jamais, non ? Vous avez fait de la grammaire, on ne vous a jamais dit ça. C'est évident parce que ça c'est la philosophie de la grammaire. Pourquoi la forme infinitive ? Pourquoi être ? Il suffit de dire ceci est. Pourquoi le besoin d'abstraire ? Pourquoi quand vous dites le mur est blanc, vous avez le besoin de dire la blancheur ? Vous n'avez jamais réfléchi à ça non plus. Pourquoi ce besoin constant d'abstraire ? Il faut se poser la question, le pourquoi ? Pourquoi ce besoin constant d'abstraire ? Il y a des langues dans lesquelles l'abstraction est mise au pinacle, dans l'allemand. La langue allemande est une langue qui abstrait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on est à l'aise. C'est très important pour Heidegger, ça. Parce que comme il est très, très sensible à la langue, c'est un poète. C'est un nouveau Platon. Donc c'est un poète, avant tout. Il est plus poète que philosophe. Mais il est poète et philosophe. Alors, quand on est en présence d'une langue où l'abstraction est constante, on comprend cette séduction énorme de l'abstraction. Alors, pourquoi l'abstraction ? Pourquoi, dites-vous, ce mur est blanc et que vous éprouvez le besoin de la blancheur ? Réfléchissez là-dessus, c'est très très important, ça c'est très élémentaire et donc c'est très philosophique. Et personne n'y pense. Et c'est quand même très intéressant puisque c'est une forme de ma pensée. Et alors surtout quand il s'agit de l'être, ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être ? L'abstraction permet à l'intelligence de se séparer de ce petit compagnon indispensable, mais agaçant, la sensation. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. La sensation, elle est liée à notre corps. évident. Et l'intelligence n'est pas liée à notre corps. Et l'intelligence est la noblesse que notre corps n'a pas. Parce que c'est lié à notre âme spirituelle. Et alors, d'habitude, le petit compagnon, hein, c'est le corps. Compagnon d'infortune. Il faudrait bien de temps en temps déposer ce compagnon. Hein. Et repose-toi, je te laisse là, mais laisse-moi tranquille pendant ce temps-là et que je puisse moi un tout petit peu réfléchir. Et puis vous êtes obligé de dormir avec votre corps. C'est très humiliant pour l'intelligence. Dormir avec notre corps. Je dors mais mon cœur veille, voyez, hein? Je dors mais mon cœur veille. C'est qu'on n'accepte pas que le cœur dort. C'est très humiliant, vous, quand même, tous les soirs. Vous n'êtes pas très humilié d'aller vous coucher. Terriblement humiliant. C'est-à-dire, je suis obligé, moi qui suis un être spirituel, je suis obligé. Oh. La bourrique. Je lui donne son avoine déjà tous les jours, matin, à midi et soir. Et puis je suis obligé le soir de lui dire « Repose-toi, la vieille bourrique. » Et puis vous êtes obligé, vous, de vous taire pendant ce temps-là et vous dormez avec. Vous comprenez que ça, c'est quand même très curieux, ça. Ça, c'est le propre de l'intelligence liée au corps. C'est merveilleux. Chef-d'œuvre de Dieu, il faut du temps avant de découvrir que c'est un chef-d'œuvre de Dieu. Et puis, ce chef-d'œuvre de Dieu fait que l'intelligence, tout en étant liée au corps par la sensation, reste l'intelligence. Mon intelligence n'a pas les mêmes mœurs que mes sensations. L'intelligence est faite pour l'universel. Elle est faite pour saisir des principes. Elle est faite pour pénétrer plus avant, intus legere, lire en profondeur. Alors que nos sensations, c'est toujours le datour. On se casse la tête sur le mur. Alors, on comprend cette revendication de l'intelligence, mais une revendication naturelle. C'est naturel pour l'intelligence d'abstraire, pour pouvoir se séparer des sens, pour pouvoir être un tout petit peu elle-même, et pas liée toujours à l'indépendance des sensations. L'expérience sur dépendance des sensations. Quand j'interroge, l'intelligence se libère. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Voyez, la libération d'intelligence, c'est l'interrogation. Voilà un très beau livre à écrire. Hein ? Libération d'intelligence, l'interrogation. Je laisse mes sens, et puis je découvre. C'est ça le mouvement profond de l'intelligence. Elle passe du concret à l'abstrait. C'est terrible ! Je dis bien que c'est terrible que mon intelligence ne peut se libérer des sens que par l'abstraction. C'est une libération qui n'est pas commune du tout. Quand il s'agit de se libérer des camps de captivité pendant la guerre, on passait par des tunnels. C'était pas si drôle que ça, on passait pas par la grande porte. On passait par des tunnels, avec le danger d'être pris autour. L'abstraction, on passe un peu par un tunnel. On abandonne pour saisir quelque chose. L'abstraction, c'est mettre en pleine lumière quelque chose qui est saisi dans l'ordre de l'expérience, toujours dans un état confus. Et l'intelligence est capable de mettre ça en pleine lumière. Et pour ça, il faut qu'elle abstrait, qu'elle abandonne. Elle abandonne le mur pour ne chercher que la forme blanche. Et elle met en pleine lumière le blanc. Elle a dit blancheur. C'est extraordinaire, ça. Je trouve ça merveilleux. C'est cet instinct naturel de l'intelligence fondamentale qui, à travers le maquis de nos expériences multiples, diverses, l'intelligence, qu'est-ce que c'est que l'être ? Qu'est-ce que c'est que la blancheur ? Vous voyez, on saisit la forme en soi. Vous voyez Platon, hein ? C'est ça Platon. C'est le premier libérateur d'intelligence. C'est le premier. Et il fallait que Platon soit là pour qu'Aristote ensuite, lui, il est déjà évadé, alors ça va. Il fallait ce libérateur. Platon a libéré l'intelligence en pensant les formes en soi. C'est une sorte de libération de l'intelligence, où l'intelligence, alors, peut quitter ce domaine des sens, le tâtour, se donner et puis se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'être? Oui, j'insiste là-dessus, parce qu'on n'insiste pas. C'est pour ça que je le mets, parce que je crois que si on a compris ça, on entre en philosophie. Si on n'a pas compris ça, on n'entrera jamais en philosophie, c'est pas la peine. Vous lirez des tas de bouquins, vous n'y comprendrez rien. Vous aurez peut-être beaucoup de choses que vous connaissez. J'ai lu ce bouquin, j'ai lu ce bouquin. Mais est-ce que vous l'avez compris? Le passage du visible à l'invisible. Le livre posthume de Merleau-Ponty. Toute la philosophie, à travers tout l'Occident, et pas seulement l'Occident, l'Orient aussi. La philosophie, c'est le passage du visible à l'invisible. Eh bien, le passage du visible à l'invisible, c'est le passage du concret à l'abstrait. Il n'y a pas d'autre moyen. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors là, vous êtes en face du visible et de l'invisible au sens maxime étalé, au sens le plus fort. Au sens le plus fort, c'est ça. C'est toujours le sens le plus fort qu'il faut regarder, parce que ça éclaire les autres. Alors, une fois qu'on a fait ce passage, qu'on a compris un peu ce passage. On le fait spontanément. Hein. Vous passez du concret à l'abstrait spontanément. Vous n'y pensez même pas. Mais, au point philosophique, je veux que vous y pensiez. Parce que si vous n'y pensez pas, vous ne comprendrez rien du tout. Ceci est, qu'est-ce que c'est que l'être? Alors, immédiatement, on se pose la question, la signification du ceci est, et qu'est-ce que c'est que l'être? Est-ce que ça a la même signification? Alors, je vous ai dit, Heidegger dit non. Parce que le ceci est pour Heidegger, c'est le datour, le es gibt. C'est ça pour Heidegger, c'est le donné. Et le donné, c'est l'étant. Ça n'a pas la même signification que l'être. Mais Heidegger dit ça à cause de tout son système et qu'il n'a jamais saisi vraiment le jugement d'existence. Si je saisis le jugement d'existence, alors à ce moment-là, je peux me reposer la question, mais il s'est peut-être trompé là. L'être, je l'ai saisi d'abord à travers l'expérience. La blancheur, je l'ai saisi d'abord à partir du mur. La blancheur, je l'ai saisi d'abord à partir du visage blanc. À partir d'un bras blanc, à partir d'un vêtement blanc, sur lequel il y avait une grosse tache, pour mieux comprendre ce que c'était que le blanc. Et donc, si j'ai saisi la blancheur à partir de ces diverses expériences, je ne peux savoir ce que c'est que la blancheur qu'en revenant à ces expériences.